Studio Tamani, voici les informations en français.
Vendredi 28 avril 2023, il est 8h dans ce studio. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les populations continuent de crier leur ras-le-bol face aux coupures intempestives d'électricité à travers le pays. Des experts leur proposent d'autres alternatives. L'exfiltration de Maliens du Soudan se poursuit après l'arrivée de 200 Maliens en Éthiopie. 45 autres ont rejoint mercredi soir la première vague. Sur 3590 prisonniers à la maison centrale d'arrêt de Bamako, 81% sont en détention provisoire. La Commission nationale des droits de l'homme invite les autorités à tout faire pour réduire ces chiffres. À la présentation, Adama Amadou Haïdara, Noumdjiré est à la mise en onde. Des populations supportent mal de plus en plus les coupures intempestives d'électricité. À Bamako et partout dans le pays, le délestage est devenu une routine, une situation qui a poussé certaines localités à battre le pavé. À Yoroso, les populations réclament la reprise des travaux de connexion de la ville au réseau de l'énergie du Mali. Plus de détails avec Draman Meika.
Ce jeudi 27 avril, les habitants de Yoroso sont sortis pour dénoncer le manque d'électricité dans la dite localité. Pour ces manifestants, bénéficier de l'électricité que 8 heures sur 24 est une situation de trop. Ils exigent une connexion au réseau de l'EDM. Selon les sources locales, la fourniture d'électricité est assurée à Yoroso par l'Agence malienne pour le développement de l'énergie Amader et Yelenkoura. Une situation presque identique à Bla dans la région de Ségou, où les populations demandent l'utilisation de tous les groupes électrogènes présents dans le cercle. Ils ont indiqué aux autorités locales leur intention de continuer les manifestations jusqu'à la satisfaction de leurs doléances. À Gao, le délestage dure souvent 2 à 3 jours selon les populations. Le phénomène touche toutes les grandes villes du pays, la capitale malienne y comprise. Dans ses notes, l'EDM explique les coupures d'électricité à Bamako par des travaux sur ces lignes.
Et face à cette situation, les experts proposent d'autres alternatives aux populations. Selon Adama Sambou Sissoko, environnementaliste, un peu plus de moyens, les citoyens peuvent s'offrir certains matériels d'énergie renouvelable. Il est au micro de Draman Meika.
Par rapport au délestage intempestif, nous préconisons à nos compatriotes de privilégier l'utilisation de ce qu'on appelle les énergies renouvelables, à savoir précisément il y a l'énergie solaire qui est là avec une plaque solaire, donc avec un panneau solaire et puis une batterie. Cela peut quand même éclairer une bonne partie de la maison, sinon des fois ça peut prendre un certain nombre d'ampoules. Également pour les besoins de réfrigérateurs et autres, il faut quand même des moyens un peu colossaux. Mais nous pensons que pour les besoins d'éclairage, en faisant cela, c'est que nous contribuons non seulement à diminuer l'émission de gaz à effet de serre, à la séquestration du carbone et puis bien d'autres.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Après que 200 Maliens aient fui le Soudan pour rejoindre l'Éthiopie en début de semaine, 45 autres personnes les ont rejoints mercredi dernier. Cette information est donnée par le chargé des affaires sociales et des questions migratoires du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Mamadou Lamine Ban affirme que des dispositions sont prises pour suivre la situation des Maliens. Il est joint par Aissata Diarra.
Les derniers à sortir, c'est les membres de la mission diplomatique et consulaire, les étudiants et les responsables du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui sont arrivés hier soir en Éthiopie. Ce qui est le plus urgent, c'est de faire en sorte pour que ceux qui sont en Éthiopie ne perdurent pas là-bas, parce que le séjour dans ces pays-là est très très coûteux. On fera tout en lien avec le gouvernement du Mali pour qu'ils puissent prendre un vol et revenir à Bamako, en tout cas pour ceux qui sont à Addis Abeba. Maintenant, les autres qui sont restés sur le territoire soudanais, nous restons, suivons la situation au jour le jour et ensuite les décisions idoines pourront être prises selon les cas.
La Commission nationale des droits de l'homme déplore qu'à la date du 25 avril 2023, sur les 3590 prisonniers à la maison centrale d'arrêt de Bamako, 81% sont en détention provisoire. Elle invite les autorités compétentes à œuvrer à la réduction de ces chiffres. C'était lors de 16 visites en milieu carcéral en commémoration de la journée africaine de la détention provisoire. Maître Aguibou Boiré, président de la CNDH, est au micro de Draman Meika.
Les premiers constats sont vraiment amers, pour ne pas dire sont vraiment très inquiétants. Parlant de la maison centrale d'arrêt, une maison d'arrêt qui est conçue pour recevoir environ 400 personnes, on a trouvé qu'il y avait près de 3600 pensionnaires, ce qui est très anormal. Deuxième élément, il se trouve que sur cet effectif, environ 3000 personnes sont en situation de détention provisoire. Il faut rappeler que la détention provisoire est l'exception et la liberté est le principe. Donc l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les juges sur le discernement quasi systématique des mandats de dépôt.
En région à présent, le comité syndical et régional de l'Union nationale des travailleurs du Mali a tenu ce mercredi une assemblée générale d'information sur la réouverture de la Comatex. Il s'agissait d'informer les ouvriers de l'usine sur la nomination du nouveau directeur contesté par les travailleurs, le reliquat des salaires impayés sur les 900 millions de francs CFA, la reprise sans délai de la compagnie ont été évoqués. Pour Issa Touré, une marche pacifique sera organisée dans les prochains jours, suivi d'une grève dans toutes les régions. Un homme d'une quarantaine d'années a été assassiné par des hommes armés non identifiés mercredi à Bara, cercle d'Ansongo. Selon des témoignages de sa femme et de ses enfants, les meurtriers se sont introduits dans le domicile en présence de tous les membres de la famille. Ils ont laissé la femme et les enfants fuir et ont égorgé le chef de famille avec un couteau. Ils ont ensuite laissé l'arme sur le corps de la victime. Les auteurs et les raisons du meurtre restent à ce stade inconnus. Se marier, c'est aussi accepter les frères et sœurs de son mari. Cependant, dans la plupart des cas, le courant ne passe pas entre belle-fille et belle-sœur. Qu'est-ce qui explique cette situation? Comment les deux doivent se comporter pour une vie paisible? Des questions abordées dans ce dossier de la semaine, une réalisation de Fatoumata Kodjo et Ali Cissé avec le concours de nos correspondants de Kai, Cathy et Ségou.
La cohabitation entre belle-fille et belle-sœur n'est pas toujours aisée dans certaines familles. Et pourtant, des règles définissent le rapport entre celles-ci. Malgré tout, le climat n'est pas toujours calme. Écoutons les témoignages de ces femmes de Kai et Cathy.
Je m'attends très bien avec ma belle-sœur. Je la taquine beaucoup, mais elle tient à moi et me salit chaque matin.
Je ne m'attends pas du tout avec ma belle-sœur. Même pendant le mois de Ramadan, elle partageait les corvées de la maison entre nous. Elle est difficile à vivre.
Je m'attends très bien avec mes belles-sœurs et on se rend visite mutuellement.
Ces filles sont les préférées de leur mère et elles disent aux belles-filles qu'elles sont les propriétaires de la maison. C'est ce qui amène la mésentente.
Pour des traditionnalistes, chacune des deux a un rôle prépondérant à jouer dans la famille. Selon Karamoko Moussa Balo, les deux doivent s'accepter pour l'harmonie de la famille.
La belle-sœur doit se dire, moi, je dois jouer un rôle d'aiguille entre mon frère et sa femme. Je suis la belle-sœur parce qu'elle est venue chez moi. Et demain, je peux me retrouver dans une autre famille avec d'autres belles-sœurs. Et l'autre doit dire, oui, j'ai quitté chez moi pour venir chez elle. Donc, à moi de concevoir. Il faut accepter l'autre tel qu'il est et non tel que tu veux qu'il soit. Il ne faut pas créer une certaine jalousie entre toi et ta belle-sœur pour dire qu'elle n'est pas mariée ou bien elle a refusé son mari pour rester chez nous, pour nous déranger. Non, dans le bon sens, c'est elle ton mari.
Cependant, les époux ou les frères sont les principaux concernés dans cette situation. Certains avancent des astuces pour tenter de trouver un terrain d'attente.
S'imprégner de la situation et essayer de comprendre. Après, dire à celle qui n'a pas raison son tort. La vérité n'est pas floue.
Il faut conseiller ta femme en lui disant que tes petites sœurs sont tes représentantes. Donc, il faut qu'elles se comportent avec tes sœurs de la même façon qu'elles se comportent avec toi.
Un chef de famille ne doit pas s'impliquer dans les situations de mésentente entre femmes. Sinon, il risque de briser sa famille. Quand on te rapporte, tu sais ce qui est constructif et ce qui est destructif. La vérité n'est pas bonne à dire en tout lieu. Ne t'implique pas. Ce sont des femmes. Laisse-les gérer.
Ce sont des femmes. Laissez-les gérer leurs mésententes, affirment certains. Des propos corroborés par cette pensée africaine qui dit « La maison n'est belle que lorsque chacun y reconnaît sa part de labeur ».
Signé Fatoumata Kodjo, ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site web au www.studiotamani.org. Vous pouvez aussi appeler gratuitement sur Viamo 37321. Restez juste toujours à l'écoute, juste après moi, la version Bambara avec Mariam Koulibaly. Depuis des décennies, l'école malienne est confrontée à une baisse de niveau. Pour des observateurs, plusieurs facteurs expliquent cette situation. Mauvaise qualité de la formation des enseignants, multiplication des grèves, années scolaires tronquées, manque de suivi des élèves à domicile. Ce dernier aspect constitue, selon des observateurs, un grand défi. Car de nos jours, disent-ils, l'encadrement ne se limite plus qu'à l'école. Comment faire pour changer les choses face à ces nombreux défis? De la réponse dans ce magazine Tous les enfants du Mali, une réalisation de Mamadou Samassikou en collaboration avec certains correspondants.
À Kay et à Bandiagara, des enseignants déplorent que l'éducation des enfants soit aujourd'hui laissée aux seuls enseignants. Aussi, ils déplorent que ces derniers n'aient plus d'autorité pour encadrer suffisamment les élèves.
Dans le temps, les parents, les élèves suivaient de façon assidue les enfants. Le travail d'aujourd'hui est laissé au maître lui seul.
La discipline aussi a baissé largement. Partiellement, le châtiment était accepté de façon modérée. Mais aujourd'hui, même si tu grondes un peu l'enfant, il n'est pas content, il va se plaindre à la maison.
Au ministère de l'Éducation, des responsables affirment que les règles qui sous-tendaient la bonne formation des enfants ne sont aujourd'hui pas respectées. Ils estiment que les années passées, l'accent était mis sur la qualité des apprenants et non la quantité. Mamadou Kanté, directeur national adjoint de l'enseignement fondamental.
Il était retenu comme standard 25 élèves par classe, par enseignant. Cela pouvait permettre à l'enseignant de s'intéresser à chaque enfant. Bien dire, bien parler avec les écritures en calligraphe, l'accent de la formation de l'enseignement était basé sur ça. De nos jours, une classe de plus de 60, 70 jusqu'à au-delà de 100 élèves, il faut reconnaître que le maître a même de la peine à connaître les noms de tous les enfants durant l'année scolaire, à plus forte raison s'intéresser à tout le monde.
L'association des parents d'élèves est aussi de cet avis. Ses responsables pointent surtout du doigt les recrutements et la qualité de la formation des enseignants et administrateurs d'école. Daouda Sakho, secrétaire général adjoint de l'association des parents d'élèves étudiants du Mali.
On ne recrute pas n'importe comment. On ne forme pas n'importe comment. On ne met pas n'importe qui dans les classes. Qu'on se le dise. Quoi que l'on dise pour la colonisation, mais vous savez, pendant la colonisation, comment on recrutait un enseignant? Les enseignants qu'on formait à Sibi Kotan ou à William Pointy, mais c'était les meilleurs des meilleurs des classes. Et un comportement moral impeccable. Parce que le colonisateur disait que ce sont ces gens qui peuvent former d'autres personnes. Mais pas celui qui vient, il se dit en attendant. C'est comme les cours privés. Quand tu appelles un professeur à aider ton enfant en mathématiques, mais il ne faut pas venir toujours le bombarder d'exercices. Il faut savoir connaître d'abord quelles sont ses difficultés, quelles sont ses lacunes.
Les cours particuliers sont de véritables atouts pour rehausser le niveau des élèves, estiment certains parents. Les enseignants de Ségou et Tomoktou donnent leur avis sur les cours à domicile.
Au niveau des cours à domicile, c'est très important. C'est une manière de faire réviser les enfants.
Logiquement, la pédagogie voudrait que le maître qui encadre l'enfant à l'école ne doit pas l'encadrer à la maison. Ça, c'est pas normal.
Les autorités affirment que, malgré l'énormité des défis, il leur appartient de les relever. Mamadou Kanté, directeur national adjoint de l'enseignement fondamental.
Il faut construire suffisamment de salles de classe et les équiper. Il faut aussi recruter le maximum d'enseignants. Malheureusement, tout cela est lié justement aux finances. Et c'est à ce niveau-là que vraiment nos pays pauvres ont des difficultés à suivre le rythme du développement de la population scolarisable. Mais néanmoins, c'est notre rôle, c'est notre mission de faire en sorte que les enfants soient bien éduqués, bien formés pour l'avenir. Et on ne peut que convier les parents à faire en sorte qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle pour que les enfants soient bien éduqués et en famille, et dans la rue, et à l'école.
Les responsables du ministère expliquent que le recrutement et la construction des écoles étant dédiées à l'État, rares sont les partenaires qui y songent. Ils ajoutent que plus de 80% du budget du département est consacré au traitement des enseignants.